Cette semaine, dans le balado, on voit des morts, on se cache des extraterrestres et on cogne à la porte de notre cabine. Oui, 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 vous allez vous comprendre une fois l'émission enclenchée. Bienvenue à mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut! L'été est complètement Shyamalan.
Oui, tout à fait.
Fait que la semaine prochaine, le 7 juin, une de ses filles, sa fille, sort un film, Les Guetteurs, et lui-même, M. Night Shyamalan, le roi de la twist. Au début août, je pense, le 9 août, en tout cas, sort le film Trap, piégé, qu'on avait parlé de la bande-annonce il y a quelques semaines. Alors, pourquoi pas revoir toute la filmographie d'M. Night Shyamalan et un peu classer ça du meilleur au pire ou du pire au meilleur? On ira dans l'ordre suspenseful.
Ben oui, vu que c'est une petite semaine en termes de sortie cinéma, alors on a pensé faire ce spécial Shyamalan, comme on fait des fois à l'occasion, on prend une thématique précise. Puis vu qu'il n'y avait pas une filmographie non plus, une filmographie exhaustive non plus.
Mais il y a quand même 15 films.
Ouais, ouais. T'sais, mais tu sais, on avait amené l'idée peut-être des films de Jerry Bruckheimer ou des trucs dans le même.
Ouais, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Ça plus exhaustif. C'est sur 45 films.
Ouais, c'est ça.
Puis tu sais, on s'est dit que si on faisait juste un top 5, ce serait probablement les mêmes. Fait que tant qu'à ça, on va faire une espèce de classement, là, justement, de comment. Quoi voir, quoi éviter. Voilà.
Tout à fait. Mais tu parles de films père-fille. On pourrait avoir un autre doublé cette année aussi, ce qui est quand même rare. Je serais curieux de voir les statistiques, mais il y a David Cronenberg et sa fille qui ont
un
film. Parce qu'on sait que lui a présenté un film à Cannes.
Shrouds.
Donc, j'ai l'impression qu'il devrait sortir peut-être
probablement cet automne
habituellement. Donc,
puis Caitlin qui avait sorti Humane.
Il y a quelques semaines déjà.
Voilà.
Alors, faisons un petit tour d'actualité. On va quand même parler un peu de ce qui a fait jaser cette semaine. Puis, il y a un film que moi, j'ai eu la chance de voir au cinéma. Donc, dans les actus, c'était la clôture du Festival de Cannes.
C'est vrai, ben oui.
Alors, j'ai noté quand même juste rapidement les grands gagnants. Alors, Palme d'Or qui a été remise à Anora de Sean Baker, un réalisateur que je ne connais pas.
Ah, ben, Sean Baker, c'est The Florida Project. Ouais, que j'ai jamais vu. Red Rocket, si je me souviens bien. Ouais, ouais, très cool. Très sauce A24, tout ça.
Oui.
Je ne sais pas si son dernier film, Anora, était aussi avec A24.
C'est avec Neon Pictures.
OK, bon, ce qui est ça un brosse peu le portrait, ouais, c'est équivalent. Ça. J'ai su, d'ailleurs, que Entr'acte Film avait les droits. Alors, dès cet automne, peut-être, on pourra voir le film. La date précise n'est pas annoncée. Okay. J'imagine que cet automne va sortir au Québec.
Donc, l'histoire met en scène une stripteaseuse américaine, mais d'origine russe, qui tombe en amour avec le fils d'un oligarque russe. Okay. Donc, un amour improbable et tout ça. Sinon, Grand Prix remis à All We Imagine As Light de Payal Kapadia, donc un film qui vient de l'Inde, sur un film qui porte sur trois femmes et leur situation sociale et tout ça. Donc,
l'Inde est au menu avec les Shyamalan et tout.
Mais... Oui, ouais, tout à fait. Sinon, Grand Prix du jury, Emilia Perez de Jacques Audiard.
Ah ouais, OK.
Et d'ailleurs, c'est aussi un fait un peu rarissime, donc c'est l'ensemble de la distribution féminine qui a gagné le prix d'interprétation féminine. Ouais. Donc, Zoé Saldana, Céline Gomez et Carla Sofia Gascon, qui est une actrice trans, ce qui a causé quand même une petite controverse. Et le film Emilia Perez, quand même une comédie musicale.
Ah ouais, il y en a plein cette année.
Ouais, plus, c'est vraiment revenu à la mode. Donc, d'une avocate d'un chef de cartel mexicain qui va subir une chirurgie de réattribution sexuelle pour échapper aux autorités.
OK.
Alors, pas le genre de sujet que je verrais en comédie musicale.
Tant mieux.
C'est peut-être ça qui a plu au public. Au jury.
Ouais, mais ça peut être le côté dramatique aussi, un peu comme Les Misérables, tu sais. On dit comédie musicale,
ouais,
mais
c'est
c'était
vrai.
Pas
mais
drôle.
C'était marqué comédie policière, par contre.
OK.
Fait que je pense que le traitement est... Et on est justement plus dans quelque chose de léger.
OK, intéressant.
Ouais, prix acteur masculin Jesse Plemons pour Kinds of Kindness.
Oui, qu'on verra dans quelques semaines.
Ouais, tout à fait. Prix de mise en scène Miguel Gomez pour le film Grand Tour, un film de Portugal, France, Italie qui se déroule en Asie en 1918 où une femme part à la recherche de son fiancé qui se promène un petit peu partout dans ce coin-là. Et Un certain regard, c'est le film chinois Black Dog qui a remporté le prix. Alors voilà. Pour,
c'est le genre de, les gagnants comme ça, il y en a qui sont déjà annoncés, déjà acquis, mais mettons Black Dog, le gagnant Certains Regards, c'est le genre de film qu'on voit, qu'on arrive à mettre la main et voir sur nos écrans ici, mais des fois ça prend plusieurs mois, puis c'est genre en février prochain ou une affaire de même. Là. Surtout s'il est en nomination, film international, etc., d'Oscar et tout. Là, quand
ouais, des fois, ils attendent.
Quand les compétitions s'entrecroisent. Là.
C'est ça. Ils attendent de voir ce qu'il va faire aussi dans les deux autres festivals plus prestigieux aussi. Donc, fait que voilà. Sinon,
Je ne sais pas s'il y a des plus prestigieux, mais non, d'autres mais festivals dire, prestigieux. Ouais,
je me suis trompé dans mon libellé. Sinon, nouveau annonce actualité cinématographique. Deux nouvelles qui ont retenu un peu mon attention cette semaine. On connaît enfin qui incarnera le prince Adam, alias Iman, au cinéma. Vous avez parlé il y a quelques semaines d'Adam Mutsu, de mise en chantier d'un nouveau film inspiré de l'univers de Iman.
Peux-tu me rappeler, y a-tu un réal ou une réal
d'attaché à ça? Oui, c'était lui qui avait fait Travis Knight.
Bumblebee, Kubo et l'épée, Kubo, ouais, puis Bumblebee. Là,
ouais.
Tout,
okay. Donc, c'est un jeune acteur un peu méconnu, là, qui n'a pas une longue feuille de route, mais on sait que c'est Amazon qui est derrière la production de He-Man et travaille beaucoup pour eux. C'est Nicolas Galitzine. Qui joue présentement dans The Idea of You avec Anne Hathaway, qui est sortie récemment. Sinon, il était dans la version Cinderella avec Camila Cabello aussi. Je pense qu'il y a peut-être 2 ans que ça remonte à ça. Donc, il y a quand même la gueule, mâchoire très carrée. Okay. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même les cheveux bruns. Alors, pour moi, il n'y aura pas le choix de passer ça. Ouais, chez la coiffeuse pour se faire blondir les cheveux. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ça, honnêtement, c'est un univers qui a un bon potentiel si c'est bien fait. Là,
Je connais rien de ça. Je demeure curieux. C'est tout du monde de talent. Travis Knight, j'ai confiance.
Moi, j'avoue que j'écoutais un peu les dessins animés. J'avais plusieurs des figurines tout ça, à l'époque. Là, on parle des années 82, 3, 4 là, à peu près, qui était la grosse période. D'ailleurs, He-Man qui avait... détrôner Star Wars dans les ventes de jouets à ce moment-là. Là.
Ah ouais, OK.
Déjà que Star Wars arrivait avec le dernier film Return of the Jedi, fait que la nouvelle génération de garçons s'était lancée dans les He-Man qui trônaient en haut des ventes. Sinon, Mike Flanagan, qui connaît quand même de bons succès avec ses séries Netflix d'horreur, là, un peu. On lui a confié finalement les clés de la franchise The Exorcist.
Ouais, on a remercié David Gordon Green après le fiasco du
The Exorcist Believer.
Voilà.
Alors, fait que là, on va complètement repartir ailleurs. Donc, on a confirmé que ce ne sera pas une suite à The Exorcist Believer, ni une reprise de l'exorciste original.
Un peu comme les Terminator. Là, c'est la vraie suite. Oubliez l'autre suite, ça. Là, c'est la vraie suite.
Ben, j'ai l'impression qu'on va partir sur quelque chose de nouveau qui se passe dans cet univers-là parce qu'ils ont payé pour les droits du film original. Là. Fait que ça va être à suivre, mais quand même, Mike Flanagan, je pense qu'il peut faire une job intéressante, mais en même temps, les studios disent toujours qu'on est séduit par sa vision, son pitch, puis ça va être super intéressant. Puis, des fois, ça donne pas toujours le résultat escompté, là, mais...
Surtout que c'est une situation de... C'est pas juste on est séduit par son pitch, c'est plus comme... On a un problème, on a mis trop d'argent sur une franchise qui est allée dans le mur. Fait que là, il faut passer à autre chose. Fait que là, tu essaies de faire croire comme « c'est une super belle décision artistique. » C'est comme « mais non, c'est un plan de contingence là, pour sauver ça. »
Donc, on verra bien le résultat lorsque ça sortira.
Mais oui, ça peut faire un bon film quand même.
Oui,
c'est
oui,
ça,
non,
c'est juste que c'est la manière de l'adresser.
Mais
c'est
oui,
comme,
oui,
faites-vous pas croire que vous avez eu un coup de génie soudainement. Là, c'est
ben, écoute, tout est
c'est votre plan B,
tout
là, déjà.
Tout est spin Hollywood, là, on s'entend. Donc, produit par Blumhouse. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Flanagan travaille avec la boîte de prod Blumhouse. Il avait tourné pour eux Oculus en 2013, Hush en 2016, que j'ai pas vu, puis Ouija Origin of Evil en 2016, qui était la suite de Ouija, qui était vraiment très bonne.
Ah oui, OK.
Oui, quand même. Ouais, c'est deux petits films intéressants de films d'horreur que j'avais bien apprécié.
J'ai pas vu aucun de ceux-là que tu as nommés.
Fait que voilà pour le tour d'actu. Sinon, bande-annonce... quand même, moi, un film qui pique ma curiosité. Le Wolves de John Watts avec George Clooney puis Brad Pitt.
Ben, tout à fait, oui, oui. Ouais. Ça a ramené tout de suite ce sympathique duo qu'on a vu dans... Mais c'est juste dans les Ocean Eleven ou il y a d'autres films qui ont fait ensemble?
Ben, moi, je pense que c'est juste ces films-là.
OK,
ouais.
C'est quand même trois puis c'est des gros succès. Ouais. Mais c'est ça. Fait que les deux jouent des nettoyeurs là, qui arrivent après un crime ou quelque chose comme ça, mais ils savent pas que l'autre va être là. Fait que déjà anguille sous roche que les deux soient appelés. Fait qu'ils se retrouvent à devoir travailler ensemble une espèce de... Mais pas body cop, mais un body movie que... Ouais. Sont pareils, mais différents. En fait, c'est deux lone wolves qui veulent pas travailler avec quelqu'un d'autre.
On comprend qu'il y a un passé qui les lie aussi, là. Voilà. Donc, puis en même temps, ben... ce qu'ils doivent nettoyer semble prendre un peu le champ, là, parce que tout ne semble pas ce que ça doit être. Finalement, le corps qu'ils doivent déplacer, et la personne est vivante, mais est mêlée à avoir volé de la drogue à quelqu'un, à des trafiquants. Donc, fait quoi? Comédie noire qui rappelle un peu les... Un peu out of sight, je trouvais. Là, je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
Ouais, ben je ne sais pas s'ils vont tomber en amour l'un avec l'autre.
Ben, on ne sait pas. Mais je trouvais ça dans cette facture-là visuelle aussi, quand même assez, assez léché.
Mais John Watts, c'est Spider-Man,
ouais, c'est la trilogie de Spider-Man chez Disney, effectivement.
OK, fait qu'on va ailleurs complètement.
Je pense qu'il y avait peut-être besoin d'un break de film de super-héros.
Ouais, ben ça, ça a l'air contraignant aussi de faire ces affaires-là.
C'est comme 10 ans de ta vie là, à passer là-dessus.
Ouais, c'est ça. Puis tu ne décides pas du calendrier puis de rien. Puis c'est comme, tu sais, peut-être que lui, il est comme, hey, j'en ferai un autre Spider-Man. Puis c'est comme, non, on n'est pas rendu là. Puis là, c'était pas Marvel. Puis il sort plat. Fait que, qu'est-ce que je peux faire? C'est lui qui l'a écrit?
Et oui, okay. Qui a scénarisé. Fait que ouais, moi j'ai bien hâte de voir ça. Alors, date de sortie le 20 septembre. Sinon, ben, on a eu aussi premier aperçu de Moana 2, qui sera le gros film de l'action de grâce américaine. Suite du film de 2016 qui avait remporté quand même un bon petit succès. Encore là, visuellement, ça a l'air assez spectaculaire. Mm-hmm. Où on retrouve notre jeune polynésienne, je pense.
Je vois que c'est dans mon angle mort, ça fait partie des. Une espèce de... Là, depuis le podcast, puis tout, je recommence à écouter les nouveaux Disney.
OK. Fait que celui-là, tu l'avais loupé.
Non, j'ai jamais vu ça. Ouais.
Moi, j'avais vu avec ma fille. On était dans cet âge-là. Moi aussi, j'ai comme un petit entre-deux entre nos deux enfants. Mais avec Moana, je me souviens d'avoir vu au cinéma avec elle. On avait bien apprécié. D'ailleurs, elle est très hâte à cette suite-là. Donc, on comprend que le personnage de Moana va être encore appelé à aller sur les océans pour... réunir des clans, en tout cas de ce qu'on comprend. Le message est assez cryptique. Puis j'avoue que le dernier est assez loin dans ma mémoire, fait que je me rappelais plus trop de l'histoire, mais...
C'est quoi, 2016, le premier, t'as dit?
Ouais, 2016.
OK, quand même.
Ouais. Ben, il faut dire qu'à l'origine, Moana 2 était destiné pour être une série sur Disney+, qui ont rebâti en film. Je pense que le travail, le visuel était vraiment très, très beau, fait que ça a comme convaincu les
ouais, quelle drôle d'idée, alors que c'est une de leurs dernières sorties fortes, genre, puis de dire, on met ça juste en série à plateforme alors qu'il y a des centaines de millions qui dorment.
Oui, ben tout à fait. Mais tu sais, on était dans l'époque déjà de la pandémie et tout ça, où on voulait nourrir les bêtes, les services de streaming. Puis là, je pense que Disney a besoin d'un succès. Ils ont peut-être dit, ben là, on a ça qui est en préparation, qui peut être un film qui est vraiment bien.
C'est comme pour ça qu'il y a un Moana 2 puis un Moana en prise de vue réelle qui sont tous en production à peu près en même temps. Il va sortir comme un an plus tard, l'été prochain, c'est ça?
Je pense que c'est l'été prochain.
C'est ça. Fait qu'il y a 6 mois de différence.
À moins qu'il le repousse pour 2026.
Va-t-il en avoir des boîtes à lunch et des couettes de lit de Moana dans la prochaine année?
Oui, tout à fait. Fait que voilà pour les bandes annonces. Sinon, petit mot sur le film de la semaine. Puis on vous l'avait dit que c'est vraiment quand même. C'est assez rare qu'on voit ça, là, qu'il n'y a pas de gros films américains.
L'été, une semaine comme ça, même pas une comédie ou quelque chose comme ça. Ben, en fait, là, il y a une comédie française, un petit truc en plus, qui connaît vraiment un gros succès en France, là, de Artus et avec Clovis Cornillac. Corvillac, je ne sais plus.
Je ne sais pas.
Clovis. Puis, il y a ça qui prend l'affiche. Et il y a aussi Bonheur, Pierre et Marthe de je sais même pas de
qui. Martin Provost, que j'ai
vu. Ah oui, il a fait une couple de biopics, genre Violette, puis une sage-femme, ça. Puis, c'est pas son premier fait d'armes, là. C'est genre
non, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Il tourne pas souvent parce que ses premiers films remontent au début des années 2000. Mais de ce que j'ai vu rapidement. Faisant quelques recherches, je pense que c'est Séraphine qui date de 2008 là, ou 6-7-8 qui semble être son gros film. Là. J'ai vu ça. J'étais quand même intrigué. Un film sur le peintre Pierre Bonnard que je ne connais pas. Là. Je ne suis pas un amateur ni connaisseur d'art visuel.
Tu ne collectionnes pas les tableaux?
Non, les Picasso. Puis
les Bonnard.
Donc, j'étais quand même curieux de connaître un peu plus ce personnage-là qui a quand même une vie assez intéressante, je dois avouer. Fait que j'ai vraiment embarqué dans le film.
C'est Vincent Macaigne.
Oui, puis Cécile de France qui joue Marthe Bonnard, donc qui était sa compagne, muse aussi, parce que dans un tiers à peu près de ses œuvres, c'est elle qu'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peignait jamais son visage clair, là, il était toujours en flou, toujours un peu de dos. Fait que c'est un peu sa signature. Mais oui, une vie quand même assez olé-olé pour l'époque. Une espèce de de vieux garçon qui va rencontrer Marthe Bonnard, j'imagine dans la fin de vingtaine, quelque chose comme ça. Va devenir rapidement sa muse, vont tomber en amour, rester ensemble, mais à une époque un peu plus lointaine dans leur couple, vont vivre dans un ménage à trois avec une jeune étudiante aussi en art, et Marthe peignait aussi.
Okay.
Donc, mais ce ménage à trois-là va un peu mal virer. Fait que c'est ça, fait qu'on suit vraiment quand même le personnage sur une bonne partie de sa vie. Puis je veux dire, le vieillissement aussi, là, au niveau du maquillage et tout ça, l'esthétisme visuel est assez bien réussi. Là, c'est toujours un peu tricky de faire vieillir les comédiens, mais je trouve qu'ils ont bien réussi. Puis au-delà de ça, le scénario est intéressant, l'histoire est bien amenée. Esthétiquement, c'est un très beau film aussi, tant dans les cadrages, la mise en scène, ça garde toujours notre intérêt. La musique aussi est très, très belle. Donc, tu sais, un film assez classique somme toute, mais quand même juste assez différent pour garder notre intérêt, là, parce que tu sais, on n'est pas dans... Comment dire? Il y a quand même un certain dynamisme dans le montage et dans la progression du récit, ce qui fait qu'on reste toujours accroché. Puis, fait que voilà. Fait que si vous aimez ce genre de film-là, là, je pense que c'est vraiment bien réussi.
Je pense pas qu'il y avait... rien remporté, mais il a été présenté à Cannes l'an dernier, si ma mémoire est bonne.
Ouais.
C'était une sélection de 2023.
Oui, oui. Donc, Bonnard, Pierre et Marthe, si vous aimez justement l'art, au moins, parce que ce qui est fun, c'est qu'on le voit quand même beaucoup reproduire ses tableaux, fait que la partie un peu créatrice est intéressante. Puis, au-delà de ça aussi, que c'est des personnages un peu en marge de cette époque-là, bien évidemment, les artistes, c'est souvent des êtres un peu libres qui refusent toute convention.
Début 1900 ou...
c'est sa grosse période, c'est dans les années 1910-20, à peu près. Là. Fait que, justement, fait que... Ouais.
J'imagine bon, boire de l'absinthe, là, puis triper. Là. C'est plus les poètes, là, quand c'est des films sur des poètes là, qui vont se saouler. Peut-être. Bon, OK. On attaque tout ça?
Oui. Allons-y.
OK, mais là, avant de tout... je sais pas exactement qu'on va le présenter, dans quel ordre...
Moi, j'ai fait comme quatre classements.
Mais est-ce que tu veux qu'on présente par bassin ou plus en chronologie puis en parlant du film, où est-ce qu'on l'envoie un petit peu?
Moi, j'irais par bassin.
OK. On peut en parler avant un petit peu de qui M. Night Shyamalan. Dans le fond, c'est un peu son nom d'artiste. Là, mais c'est un Indien. Il est né en Inde, j'oublie de noter quelle ville, des années en 1970. Puis il est arrivé en Pennsylvanie vers 6 ans. Puis après, il a grandi là. Puis.
D'ailleurs, as-tu noté son vrai nom?
Oui, mais je ne sais pas si j'ose le dire. Oui, Manoj Neliyatou Shyamalan. Fait que le M de Manoj, le N de Neliyatou, il l'a transformé en Knight, puis ça lui fait un super nom. Mais j'ai écouté une couple de behind the scenes, puis d'affaires comme ça de ses films, puis il se fait souvent appeler juste Knight. Le monde l'appelle pas M. Knight quand il parle, il l'appelle Knight. Pis...
Et ça, c'est le Knight et le prix à l'université. Je sais pas si tu avais
présenté
notes. Moi, c'est à l'université qui s'est donné ce nom-là.
OK, peut-être. Peut-être tanné de faire massacrer son nom aussi. Pis... voilà, puis c'est pas pour rien, il est arrivé en Pennsylvanie et c'est un truc qui est très fort chez lui, c'est que tous ses films, le plus possible, les personnages viennent de Philadelphie, ça se passe à Philadelphie, ça se passe en Pennsylvanie, il tourne en Pennsylvanie, tu sais, qui est pas un endroit de tournage tant que ça, là, à part Rocky, là, c'est pas, souvent c'est à New York, Atlanta, même pour des studios, des fois, on va aller dans des studios à Philadelphie faire mes affaires. Fait que, il est vraiment fort là-dessus. Lui, c'est un gros fan de basket, des 76ers. Ils disent que c'est billets de saison depuis, j'imagine, depuis qu'il y a l'argent pour s'y acheter. Puis, fait que ça arrive souvent. Là, j'ai réécouté Le Sixième Sens, là, on y viendra. Puis, ils ont des casquettes des 76ers à maner. Puis, ou des fois, c'est qu'il sort du basket. Puis, c'est du. Un de ses premiers films aussi, non connu, Wide Awake, ben, la prof a la casquette des Phillies. Puis, elle est full fan de baseball. Fait que, puis, ça aide que c'est une ville qui a tous les sports. Là. Il y a même du football. Puis, tout. Ouais. Fait que, peu importe ce que tu veux de ton personnage, tu peux lui faire aimer une équipe de sport professionnel. Puis, l'établir à Philadelphie. T'sais.
D'ailleurs, moi, j'ai un petit fun fact. Wide Awake. Qui avait été coproduit par ses parents, en fait. Fait qu'il avait tourné son premier long métrage, c'est un film étudiant qui s'appelle Praying with the Anger.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de l'écouter. Il est comme... Je l'ai trouvé sur YouTube, qualité de boîte. Ouais. Sinon, il est... tu sais, au début, j'étais là, on l'intègre-tu dans ses films parce que si tu vas sur Letterboxd ou que ce soit, il est là, mais c'est un film indépendant. Là. Ouais, c'est un ça. Premier film comme à mener. Ça me fait penser, tu sais, Pascal Plante, il comptait qu'il a ce film. Ce film-là, son premier film, hein, Pascal Plante, là, c'est pas Les Faux Tatouages, il y en a un autre avant, mais il est plus nulle part. Là. Il existe, là, j'en ai fait un film, mais à un moment donné, fait que c'est un peu pour ça. Là, ça traîne sur YouTube, mais c'est plus, tu peux pas acheter un DVD, je pense, de Playing with Anger.
Il n'y a jamais eu de distribution de toute manière, de mémoire. Et tout comme Wide Awake, la religion tourne beaucoup autour de ces deux films-là, parce que...
Ben, je sais pas où tu allais aller, moi, j'allais juste dire qu'en fait, une fois que tu vois ces premiers films-là, Wide Awake, j'ai pas le temps de l'écouter au complet, j'ai écouté à moitié, c'est un coming of age, c'est vraiment pas des les twists puis les trailers comme l'ensemble de sa filmographie. Puis c'est un petit gars qui cherche Dieu, tu sais, parce que son grand-père vient de mourir, puis là, il se demande, y es-tu allé au paradis dans l'au-delà, fait que il recherche Dieu, fait que c'est un coming of age au travers de ça, assez tranquille. Puis j'étais là, hey, finalement, là, la religion, puis... C'est comme la foi, là, avec un grand F, là, sans nommer une religion en particulier. C'est quand même au centre de pas mal tous ces récits de comme croire en quelque chose de plus fort que nous, de combattre quelque chose de plus grand, il faut que tu y crois pour le voir. Tu sais, c'est un peu ça tout le temps.
Oui, puis ça, c'est vraiment lié à son éducation. Parce que c'est ça, Wide Awake, en fait, pourquoi la religion catholique est si présente, tout comme Praying with Anger, c'est que lui était dans une école catholique alors qu'il était hindouiste. Donc, il y avait ce clash-là de culture. Fait que c'est comme au cœur un peu de ces histoires, de ces thèmes. Wide Awake a quand même vraiment une petite distribution par Miramax quand même en 98, même si le film avait été tourné en 95. Il avait quand même été chanceux parce qu'il y avait Rosie O'Donnell qui jouait là-dedans, puis il y a une autre, Julia Stiles aussi.
Ouais, elle a fait la fille dans ses premiers rôles.
Tu sais, pour un gars qui arrive de nulle part.
C'est Dennis Leary qui fait le pack, quand même un bon routier de cinéma.
C'est ça. Fait qu'il avait quand même réussi à avoir un bon casting. Probablement qu'ils ont dû travailler vraiment pour le minimum de la guilde, là. Mais bref, le film a quand même perdu beaucoup d'argent, mais ça a attiré quand même l'attention des studios. Puis là, je ne sais pas si tu t'en allais un peu avec son pedigree autre que ses films, mais il a quand même scénarisé un film qu'on n'associe pas à M. Night Shyamalan.
Oui, Le Petit Stuart.
Le Petit Stuart.
Stuart Little. Puis c'est drôle parce que c'est comme si sa première phase était très familiale, beaucoup plus. Puis il a avoué plus tard qu'il était le ghostwriter pour She's All That. Elle a tout pour elle avec Freddie Prinze. Moi, c'était la grosse affaire là, en 99. Là, j'avais 13 ans. Là, puis c'était une vidéocassette bien louée là, dans mon cercle d'amis à l'école et tout. Là.
Ben, nous autres, c'est le petit Stuart qui a roulé beaucoup à la maison, effectivement, qu'on a bien apprécié. Et puis, c'est suite à ça qu'il avait été approché par Spielberg et George Lucas pour réaliser une version de Indiana Jones 4, pas pour réaliser, mais pour scénariser. On sait qu'ils ont travaillé Lucasfilm avec beaucoup de scénaristes, dont entre autres Frank Darabont de Shawshank Redemption, tout ça. Mais s'il n'a pas réussi à livrer une version satisfaisante pour tous. Puis son héros, son idole, c'est Steven Spielberg. Puis il disait qu'à ce moment-là de sa carrière, c'est peut-être juste comme trop intimidant de travailler sur ce genre de projet-là qui était quand même assez loin de lui aussi. Là. Fait qu'il n'y avait pas une facilité nécessairement à écrire pour une histoire d'Indiana Jones, mais quand même, ça doit être une période assez trépidante quand tu tripes sur ces personnages-là, puis de les côtoyer quand même
C'est ça. Puis j'ai lu qu'il avait été attaché au premier Harry Potter pendant un temps.
Oui, aussi.
Puis ça marchait pas avec le tournage d'un autre de ses films, je me souviens plus des dates.
C'était Unbreakable, en fait, je pense.
OK, puis là, plus tard, il a dit « Ah, ben je serais quand même ouvert à en réaliser un autre », puis bon, ça s'est pas concrétisé et tout, mais on y reviendra, mais les fois qu'il a touché à des propriétés intellectuelles, ça s'est pas bien passé.
Non, c'est ça. Dès qu'il tombe dans le grand studio.
Fait que je pense pas qu'un Indiana Jones 4 écrit par lui très jeune aurait été bien, bien meilleur. Ben, j'allais dire, c'est qu'en gros aussi, c'est ça, c'est qu'il est reconnu pour être le maître de la twist, que tous ses films ont une twist. Puis ça, je pense que il est pas très à l'aise avec ça. Là. C'est comme un... C'est malgré lui, si on veut. Mm. C'est juste parce que c'est comme trois premiers films thrillers qui ont vraiment été populaires. Il y avait ça. Fait que là, après, on cherche toujours la twist. Puis là, la twist, c'est qu'il n'y a pas de twist. Puis là, déjà, dans... on écoute la bande-annonce de Trap, justement, là, qui sort à la fin de l'été. Puis on est comme, OK, mais je pense qu'il y a la twist. Ah, mais là, il le montre. Fait que c'est quoi la twist? C'est comme... Puis comme, arrêtez de les chercher. Fait que je pense... À un moment donné, il disait qu'il avait voulu adapter Life of Pi.
Ouais, c'est ça.
Parce que ça l'a beaucoup touché, c'est l'histoire d'un Indien et tout. Puis il a dit, puis je pense que j'ai jamais vu le film moi que finalement Ang Lee a fait, ni lu le livre, mais qu'il y a une certaine twist. Puis il dit, ça va comme brûler si moi je le fais, parce que tout de suite les gens vont se demander c'est quoi la. Fait que c'est comme, je peux pas le faire, je vais mal le faire un peu.
Oui, tout drôle. À fait. Alors, puis, et. Oui.
Ah ben, j'allais dire, c'est que peut-être on précisera à chacun des films, mais tu sais, il a été nommé pour des Oscars. Puis il a gagné des Razzies. Fait qu'il est... Mais c'est pas... il y a plein deux. De comédiens ouais, comme ouais. ça, là, comme on disait, Halle Berry, elle a un Oscar, puis elle a un Razzies, t'sais. Fait que c'est ça. Il est capable du meilleur comme du pire, voilà. Et surtout en 15 films, ben, t'es capable de le démontrer. Hein.
Et tout comme Hitchcock, le maître du suspense, ben, Shyamalan a toujours aussi un petit caméo, des fois même oui, quelques répliques
ouais.
dans ses films.
Ouais, puis ouais. ben, les premiers... son premier film, c'était lui qui jouait dedans, là, ouais, Praying with Anger. Puis il y en a que, c'est ça, il joue trop dedans parce qu'il y a déjà eu une nomination de meilleur acteur, ah, de ouais. pire acteur comme Razzies
okay.
Pour Lady in the Water. Il y a comme vraiment un plus gros rôle dans celui-là. Là, c'est ça. Fait qu'il est mieux en juste petit caméo, ouais, une petite scène.
Dire une petite ligne. Donc au total, moi j'ai quelques stats. Alors c'était 14 films pour des recettes globales.
Ouais,
de
à partir du sixième sens.
Ouais, fond, c'est
là,
ça, ouais. ouais. De 3 milliards de dollars quand même.
Ouais.
Et j'ai classé les trois premiers. Alors, Sixth Sense, c'est le premier avec des recettes de 673 millions. Signs en deuxième, 408 millions. Puis quand même, pas Avatar The Last Airbender, mais The Last Airbender.
Ouais.
On va expliquer tantôt pourquoi qu'Avatar n'est pas dans le titre. 319 millions. Alors, quand même.
Ouais, c'est ça. Mais on y reviendra. Il a coûté beaucoup trop cher pour être un succès. Alors. Puis, ouais, puis plus tard, à un moment donné, en tout cas, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est parti avec des films moyens, des petits budgets. Il s'est mis à recevoir des plus gros budgets. Là, il est tombé dans des grosses sorties, puis c'est solide flop, Last Airbender, After Earth. Fait qu'après ça, il a comme tout perdu, puis il est recommencé avec Blumhouse, avec des petits 5 puis des 8 millions, puis là, à faire des 100 puis des 120 millions. Fait que des vrais gros succès de retour sur l'investissement. Puis là, il est tranquillement, je sais pas encore c'est quoi le budget de Trap, il est pas annoncé, mais je pense qu'il est retourné plus dans des 40-50, là, ce qui est
peut-être,
comme très
ouais.
raisonnable. Par exemple, Knock at the Cabin, là, sont plus récents. Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était 20 millions de budget. Ouais. Là. Puis c'est vraiment pas beaucoup aux États-Unis pour ce genre de film. Là.
Fait non, il faut dire que depuis 2015, depuis The Visit, c'est lui qui finance lui-même ses films.
Ah, c'est ça.
Fait que c'était une des raisons, parce que personne voulait... le financer.
Ben, The Visit, il était avec Jason Blum, par exemple.
Ils eux, ils ont eu le droit de distribution. Ben, en fait, ils ont acheté les droits de film une fois que le film était tourné.
Ah ouais, OK.
C'est lui qui a mis l'argent de sa poche. Ouais, okay. 5 millions, ouais.
Puis, parce que c'était les trois suivants. Je ne sais pas ce que ça a fait pour Split puis Glass, mais ils sont aussi encore sous l'égérie de Blumhouse. Là. Fait que là, oui. Je ne sais pas s'ils ont mis un peu d'argent. Ou.
De ce que j'ai lu, c'est vraiment Shyamalan maintenant qui finance l'entièreté de ses films.
Okay, parce que c'est plus juste parce que personne ne veut le financer, c'est parce qu'il a dû réaliser que...
C'est plus lucratif pour lui, justement, en faisant des films de 15-20 millions. Tu fais un 100, 150 millions, 200 millions à l'international. Fait que tu as le contrôle total, puis...
Ah, OK. Fait que c'est pour ça, dans le fond, c'est le succès de Visite qui a probablement permis de financer la suite puis là, d'être de retour en selle.
Tout
fait
à
que,
fait.
Bon, veux-tu commencer par un peu les pires?
Ben oui, allons-y. moi, ce que j'ai mis, le pit ou vraiment peut-être ceux à éviter si vous n'avez jamais vu les
c'est juste pour les complétistes. Il y en a qui sont dans le So Bad It's Good là-dedans, là. Ça frise ça. Moi, je suis très fan des mauvais films, en fait, qui sont des accidents de char parce que clairement, puis je veux pas me moquer de lui ou de personne qui a joué dans ses films, c'est-à-dire que ça partait d'une bonne idée,
oui.
ça partait d'une... c'était bien fondé puis candide, de genre « Hey, ce film-là, ça va être bon, ça va être un bon suspense, le vent va nous attaquer », puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a une idée folle, mais après ça, c'est juste que moi, là, tu regardes le train déraillé, puis c'est un accident, puis etc.
Ben souvent, il part de très bons concepts, mais c'est dans sa capacité de développer un bon scénario ou non sur ce concept-là. Je pense qu'il fait souvent foi de tout. Mais quand même, je dirais, dans le bas-fond du classement, il y a quand même ces deux films de gros studios.
Ouais.
Fait que moi, je vais mettre là-dedans After Earth puis The Last Airbender.
Ouais, OK. Est-ce que tu les as vus?
J'ai vu The Last Airbender, j'ai jamais vu After.
OK. Je les ai écoutés en fin de semaine, en préparation de ça, parce que c'était, à part les deux premiers films Wide Awake, puis l'autre, c'était les deux seuls films que j'avais jamais vus. Et pour l'exercice, j'ai revu Le Sixième Sens, que étonnamment, ma blonde avait été préservée, n'avait jamais vu. Puis là, depuis que je sais qu'elle ne l'avait pas vu, mettons, depuis 4 ans, c'est quand même long, mais des fois, tu dis, on va l'écouter à un moment donné, mais ça ne donnait jamais. Puis depuis 4 ans, dès que les gens parlaient du spoiler ou quelque chose, j'étais comme la, puis j'ai bouché les oreilles, puis j'attassais. Puis c'est comme, c'est fou que ce film de 99, elle ne sache pas. Fait que, bref, j'ai revu Sixième Sens, puis moi, je ne l'avais pas revu depuis 2000, là, quand il était sorti.
OK.
Puis j'ai écouté les deux terribles, c'est ça, The Last Airbender, puis After Earth. Et je peux dire qu'à beaucoup d'endroits, Last Airbender est coté comme le pire de ces films. Mais je pense que After Earth est vraiment pire. Ce qui arrive avec Last Airbender, c'est que ceux qui ont écouté la série, qui s'appelait Avatar The Last Airbender, puis là, à cause des droits cinéma d'Avatar de James Cameron, il y avait comme... Je sais pas s'il n'y avait pas le droit, mais il voulait pas trop se mouiller à aller l'appeler Avatar, puis que ça cause des problèmes, ouais, c'est ça. Fait qu'ils l'ont juste appelé Le Dernier Maître de l'Air. C'était aussi l'époque du 3D où c'était bien hot, fait qu'on met ça en 3D puis c'est une catastrophe. Puis c'est un thème qui revient souvent avec Shyamalan, il travaille beaucoup avec des enfants. Puis c'est pas toujours bon là, moi non plus je suis pas très je trouve que les films avec des enfants, c'est le fun quand t'es un enfant, quand t'es un adulte, c'est un peu tannant parce que c'est pas toujours bien dirigé, surtout plein d'enfants ensemble. Fait que tu sais, tu t'aides pas là dans ce temps-là. Mais c'est que les fans de la série qui est à ce qu'on dit, j'en ai discuté avec des collègues ici aussi qui l'ont écouté, c'est que c'est très comique. C'est quand même léger dans ce fantastique-là de contrôler les éléments puis tout. Puis dans son film, il a enlevé tout le côté comique. Puis c'est juste comme si c'était sérieux, comme pour un film pour adultes, un genre de Game of Thrones. Mais c'est comme, ouais, mais c'est pas assez intéressant de voir des enfants se battre à contrôler des rochers, tu sais. Fait que c'est ça le problème. Fait que les fans de la série, c'est pour ça qu'ils disent que c'est le pire, parce qu'ils sont vraiment vexé de ça. Pour l'avoir écouté, ben, c'est plate. Il y a une ouverture, il espérait une suite. Ça, justement, ça a coûté 150 millions, fait que il n'y aura jamais de suite, là, visiblement.
Ben, d'autant plus que maintenant, Netflix ont les droits, puis ils ont de leur version.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais After Earth est bien pire. Ouais. Et After Earth, c'est un pitch de Will Smith qui voulait jouer avec son fils Jaden dans un film. Il avait juste joué dans Pursuit of Happiness.
Il n'avait pas fait Karate Kid encore?
Ah, mais peut-être Jaden, mais ensemble.
Ah, ensemble, oui,
Will et Jaden
oui.
dans Pursuit of Happiness. Puis il a dit, hey, je vais refaire un film avec lui, ça serait cool, un film d'aventure. Fait qu'il a comme pitché ça. Hey, avec Shyamalan, ce serait pas pire, nanana. Fait que là, le scénario a beaucoup évolué. Il a été coécrit avec d'autres mondes, retouché. Mais finalement, c'est que ce qui est plate, c'est tout le film, mais c'est que Will Smith est comme super charismatique là. Dans vie, là, à part, bon, il y a eu des bévues, là, mais il est drôle, il a de la verve. C'est ce qu'on va revoir dans Bad Boys dans une semaine. Puis là, tu lui donnes un rôle, il est du plâtre, il est supposé être sans émotion parce que c'est ça qui l'aide à affronter des aliens qui voient la peur, fait qu'il faut pas que t'aies peur. Fait que t'enlèves tout ce qui est intéressant à Will Smith, donc tu devrais prendre un autre acteur rendu là. Puis ben Jaden, le problème, c'est qu'ils sont... Ils font juste se communiquer en remote, là. Genre, il y en a un qui... Will est blessé dans le vaisseau, fait que là, Jaden, il faut qu'il se promène sur la Terre puis qu'il trouve des affaires. Fait que là, ils sont tout le temps en train juste de parler à une balle de tennis, parler à du vide, puis c'est au montage que t'es mis ensemble. Fait qu'ils sont toujours tout seuls. Fait que ça aide pas, c'est tough pour un acteur, là. Puis l'autre grosse folie, c'est qu'ils disent que ça se passe à la Terre, mais ça fait tellement pas longtemps qu'ils sont partis à cause des extraterrestres que la Terre ne peut pas avoir évolué ou dégénéré comme ça, avec des nouveaux animaux sauvages mutés, puis une nouvelle chaîne alimentaire, puis c'est comme fait que c'est sur une autre planète. Vous êtes déjà dans l'espace, pourquoi revenir sur la Terre si c'est complètement incohérent que ça soit sur la Terre? Il n'y a pas d'autres humains, là, c'est pas comme Oblivion que c'est ça le punch ou quoi. Fait que c'est ça, c'est juste vraiment plate. Il y a du CG, c'est un échec, c'est une catastrophe ce film-là, vraiment. Là. Puis ils ont dû s'en rendre compte à certains moments, ils ont dû retoucher le montage, il a dû amener tout le monde, a dû faire aïe aïe, on s'en va dans le mur au cinéma avec ce film-là. Là. Hey, bref, donc, mais je te le recommande si t'aimes le Hate Watch puis les So Bad It's Good, là, il y a quelque chose.
Ben,
de
par
bon,
curiosité, c'est sûr qu'un jour je vais vouloir l'écouter. Mais je te rejoins sur Last Airbender parce que c'était surtout mon garçon qui était un grand grand fan parce qu'il était dans l'âge où il écoutait la série télé, donc les dessins animés. Alors j'écoutais de temps en temps avec lui, que j'appréciais beaucoup. Puis effectivement, on a carrément dénaturé la série. Et d'ailleurs, les créateurs qui au début étaient super contents que ce soit Shyamalan, tout ça, mais Ils ont été rapidement écartés du processus créatif parce qu'eux étaient juste contents de pouvoir un peu donner leur input puis échanger un peu avec. Puis Shyamalan, il a comme pris son autre track. Puis je pense qu'il a dit non, moi je vais faire le film que je veux. Puis tout ça. Fait que ça a donné le résultat. Le film était quand même produit par Frank Marshall, là, qui était quand même derrière les Jurassic Park, Indiana Jones, au sein des producteurs. Fait que je pense qu'il a voulu juste créer une nouvelle franchise. D'ailleurs, c'était commis pour une trilogie de films, parce que je pense que la série ennemie a 3 saisons, si ma mémoire.
Ouais, je sais pas combien il y en a, mais ça, c'était disait que c'était la première saison.
C'est ça, fait que c'était l'adaptation de la première saison. Fait que c'est ça. Fait que bref. Un catastrophe sur toute la ligne.
Oui, puis j'ai l'impression, tu sais, c'est sorti en 2010. Là. Il y a dû avoir aussi une espèce d'effet Harry Potter, de genre, ah, les Harry Potter deviennent de plus en plus sérieux. Je veux aussi être une série jeune adulte. Fait que, tu sais, j'enlève un peu l'humour, là, puis c'est très sombre comme film et tout. Puis, tu sais, il y a eu une vision, mais ça n'a pas collé avec personne. Non. C'est ça, ça a raté sa cible complètement. Tu sais.
Fait que dans le même catégorie, moi, j'irais avec aussi The Happening and Lady in the Water.
Oui, tout à fait. J'avais les deux mêmes.
Ouais.
Puis, ce qui est cool, la petite parenthèse, c'est quand même, j'adore ça, là, même s'il y a des très mauvais films, là. C'est qu'il faisait un film aux 2 ans. Là. Lui, il était parti, là, 1999, puis après, c'est 2000, 2002, 4, 6, 8, 10, 13, puis là, il y a eu un petit peu plus. Tu sais, même après l'échec d'After Earth, il est sorti de Visite en 2015. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il est tout le temps aux 2 ans, maximum 3, il y a un film. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y en a autant. Puis, il y a quand même une espèce de détérioration là, dans les premiers, là, qu'il y a vraiment une courbe qui descend. Puis, je me souviens encore qu'à The Happening, l'événement. Je l'attendais, là. J'étais avec mes amis, là. On est en... Excuse-moi, 2008. Fait que j'ai 22 ans. Puis j'étais comme, hey, on va aller voir ça au cinéma, là. Qui est le dernier, c'était pas... Mais tu sais, là, il a l'air à retourner plus thriller. Puis Mark Wahlberg, OK, on va aller voir ça. Puis hey là là. Puis c'est fou parce que ça fait longtemps, là. Ça fait comme 15 ans. J'ai pas revu ça. Mais je me souviens que c'était pas très bon. Puis que c'était assez ridicule.
Ouais.
Puis là, j'ai réécouté des behind the scenes puis des affaires comme ça, puis j'ai discuté avec des collègues de travail et tout, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai que c'est catastrophique, puis le jeu de Mark Wahlberg est atroce. Puis, tu sais, Wahlberg est pas comme un grand acteur, mais s'il a une carrière aussi longue, c'est qu'il livre quand même bien les affaires, là. On pense à The Departed, t'sais, il est très bon là-dedans, des trucs comme ça. Fait que je pense qu'il a juste été absolument mal dirigé. Le film est sur la limite d'être une parodie, mais il se prend au sérieux. Fait que je sais même pas, Shyamalan, dans sa tête, il allait où avec ça, là. Il y a une fameuse séquence, là, vers la fin, il est dans une maison, puis là, la madame a dit « Est-ce que vous allez essayer de me tuer? » Puis là, il est comme « Non! » pas du tout! » Tu sais, ben là, je le traduis, là, mais un ton comme impossible qui a l'air encore plus fauné, là.
Ah, non, c'est ça.
Avec aussi Zoé Deschanel puis John Leguizamo, mais... Ouais. Fait que c'est ça, le vent essaie de nous tuer, puis...
La nature.
C'est la nature. Par le vent, il transporte des phéromones qui font que, là, les humains se suicident, genre. Fait que... Il y a ça. Mais quand même, dans l'ensemble de ces films... Mon souvenir est qu'ils étaient beaucoup plus trash que ce qu'ils sont réellement. C'est comme quand j'y repensais, j'étais « Ah oui, hey, ce film-là, il fait quand même peur. » Puis ça, c'est... Puis c'est comme, ben, pas tant que non, finalement. Ça,
mais The Happening est quand même un peu plus graphique que les autres.
Ouais, ben, c'est ça, la personne qui se couche en dessous d'une tondeuse, puis c'est ça, du monde qui se gonne, mais finalement, pas tant, en tout cas.
Mais non, mais tu l'as dit, tu sais, une de ses forces aussi des films de Shyamalan, c'est la mise en marché, les bandes-annonces. Il réussit vraiment à captiver notre attention. Fait que The Happening, c'était la même chose. On espérait que c'était son retour en force après The Lady in the Water. Puis finalement,
un poster avec juste des autos abandonnées sur le bord de la route. Là. C'était pas Mark Wahlberg en chess musclé. Là. C'était, fait que t'es comme, ah, wow, OK, vraiment un suspense. Là, t'sais.
Donc, fait que oui, fait que vraiment un désastre. Et Lady in the Water aussi, qui est juste une espèce de
c'est comme
histoire confuse.
Un conte pour adultes.
C'est ça, mais... C'est confus, c'est inintéressant, les personnages sont pas intéressants, fait qu'on dirait qu'il je sais pas, c'est comme une fausse bonne idée, j'ai l'impression que ah ouais, on va mettre une sirène dans une piscine dans un complexe immobilier puis
ouais, avec des créatures puis finalement tout le monde a un but au travers de ça, t'sais. Mais tu vois, lui, ça serait un que je serais curieux de revoir parce que à l'époque où c'est sorti, je l'aimais beaucoup chez Shyamalan, puis j'étais comme « Ah non, je pense que c'est bon, tu sais, je pense qu'il y a du bon là-dedans, puis tu sais, oui, mais je pense que, tu sais, j'aimais bien Paul Giamatti aussi et tout, puis aujourd'hui que je suis peut-être plus détaché émotionnellement, je me demande si c'est... Est-ce qu'on a été trop sévère avec le film? Est-ce qu'il y a quand même du bon dans ce film-là, même si le produit final est un peu magané, ou si ça aurait juste dû jamais exister puis c'était pas une bonne idée.
Moi, je pensais plus la deuxième.
La deuxième, ça se veut très bien parce que je peux pas croire qu'en quasiment 15 ans, je serais le seul qui pense à le revoir puis trouver du bon là-dedans. Là, mais d'ailleurs, dans les des Razzies, ce qu'il a gagné, c'est il a gagné le pire réal et pire acteur de soutien pour Lady in the Water. Et pire scénariste et pire réal pour Last Airbender. Bon, mais Happening, il y a eu des nominations, After Earth, des nominations et tout. Même en... Ah non, on y reviendra plus tard, parce que c'est par rapport à un autre film.
Non, moi, pour Lady in the Water, j'allais ajouter que c'est le premier film qu'il n'avait pas fait avec Disney depuis The Sixth Sense.
OK.
Et ça, c'est dû que...
ouais, mais c'était le Disney Buena Vista. Ouais, c'était pas le Disney d'aujourd'hui.
Ben, en fait, c'était la bannière adulte de Disney. C'est ça, là, ouais. Qui est, parce que en fait, les gens de Disney comprenaient rien au scénario. Fait qu'ils
ont dit, allez,
ouais, vraiment, ils disaient, écoute, on est prêt à le financer, mais on comprend rien à ton film. Puis Shyamalan a pris ça comme une insulte. Fait qu'il a dit, ben, je vais aller ailleurs. Puis fait que je me rappelle plus si c'était avec.
C'était-tu à Warner?
Je pense que c'était Warner. Je pense que c'est ça.
Puis il n'a rien fait d'autre avec Warner, non, jusqu'à Trap qui va sortir dans deux mois, trois mois.
Alors, avec des fois, c'est peut-être pas mauvais non plus de prendre des notes de... des exécutifs.
Ouais,
on moque souvent Hollywood, les gens connaissent rien au film, mais des fois, il y a déjà des red flags en lisant le scénario. Là,
mais c'est ce qui arrive souvent, c'est quand tu te retrouves à être comme scénariste réel, producteur.
T'as pas de recul.
Exactement, t'es trop dans ton affaire. Je pense que c'est lui qui a même des films qui fait même la direction photo en plus ou je sais pas quoi, puis t'es comme, ouais, c'est trop là, puis ça prend quelqu'un d'autre qui va te dire comme, ouais, bonne idée, mais garde ça pour un autre film.
Surtout hein, quand t'as 3-4 gros succès comme il y a eu avant ce film-là. Alors, tu sais, des fois, l'ego en bac. C'est juste humain, je pense aussi, en quelque part. Là, fait que...
Et c'est exact. Mais cela dit, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air hautement sympathique. Mm-hmm. Il a l'air très passionné. Sur un plateau, il a l'air vraiment le fun. Mais je pense, puis comme un peu dans The Happening, c'est le scénario complet, c'est pas tant sa forme, et surtout les dialogues, c'est pas sa force tant que ça. Il y a vraiment des phrases complètement stupides, des fois, qui ben, comme pas stupides, mais non naturelles. Ouais, ouais, c'est ça, très écrites, puis des affaires comme ça qui fait que...
Que personne parle comme ça dans la vraie vie.
Ouais, puis là, je pense que tu arrives au montage, puis même si quelqu'un d'autre fait le montage, c'est comme, non, on regarde tout, parce que tout est important du scénario que j'ai écrit, des histoires que, tu sais, fait que c'est pas tout le monde qui est très fort pour être un one-man army, là, comme ça.
Fait que moi, j'arriverais à une autre portion du classement, que ça, c'est film moyen, là, potable.
OK, t'as dit que tu l'as en quatre parties, le classement? Ouais. En quatre? OK.
Fait que moi, j'ai comme moyen, puis ça, j'ai les bons, puis j'ai les très bons.
OK, parfait, je comprends. Moi, je l'avais juste mis en trois, fait que je te suis au travers de ça.
Donc, dans la catégorie moyen, moi, je mettrais, je pense, dans le bas de cette catégorie-là, peut-être Glass.
Ouais.
Qui était son troisième film, sa clôture de sa trilogie.
Trilogie surprise, là, dans le fond, c'est parce ça. Que les deux autres, on en reparlera un peu plus haut, mais Unbreakable, qui était son deuxième gros film en 2000, puis hors de tout doute, 2016 sort un film Split avec James McAvoy, qui a plein de personnalités, dont une qui est un psychopathe et tout. Puis à la fin, spoiler, c'est dans le même univers, donc c'est comme un méchant alors qu'il crée des super-héros. Et dans Glass, ben, il va comme un peu unifier tout ça en faisant son espèce de Marvel initiative que finalement les psychiatres travaillent en dessous pour créer des méchants puis des humains. Puis Sam Jackson revient dans son personnage de l'homme de verre puis tout. Écoute, je l'ai vu une fois, je me souviens que je l'avais trouvé un peu chaotique.
Effectivement.
D'essayer de faire vraiment un film de super-héros terre à terre, mais. T'as dépassé la présentation de tes personnages. C'est comme son petit Avenger à lui, d'une certaine façon. Hein. Puis,
je pense que c'est un scénario ou une histoire trop confuse, trop d'éléments chaotiques. Tu l'as dit, avec cette espèce de société secrète, organisation secrète qui manipule derrière. Je sais pas. Je trouve que c'est.
Surtout si au final, tu le sais que tu vas arrêter là. Je ferais pas cette ouverture-là. Tant que ça, j'aurais fini pour dire ah non, c'était juste trois personnes très uniques. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais pas comme. Ah, on...
Non, moi aussi, j'aimais ça, cette idée-là, que c'est plus random, dans le fond, que tu as acquis ça, puis est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, on ne sait pas. Puis, fait que je trouve que c'était une conclusion un peu maladroite à son univers, malheureusement.
C'est parce que c'est la force de Unbreakable, puis on passera moins de temps tantôt qu'on en parlera, c'est que David Dunn, le personnage de Bruce Willis, il sait pas qu'il a un super pouvoir, entre guillemets, tu sais, qui est presque invincible. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est son gars qui le challenge. Puis c'est comme, hey, ben, t'as jamais été malade, hein, puis t'as telle affaire, puis t'es super fort, hein, puis t'as ça, puis blablabla. Puis c'est comme, crime, finalement, je suis peut-être un peu un surhomme, tu sais. Alors que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'après, quand tu présentes ça, tu sais, lui, il aurait pu vivre toute sa vie, ce personnage-là, sans savoir ça, sans chercher à dire, hey, si j'ai des. Ben, si je suis un peu surhomme, je suis plus fort, plus résistant, je devrais essayer d'aller combattre le crime et des affaires. Ah oui, son pouvoir kinétique aussi, là, qui voit les. Mm-hmm. À la cour, là, qui voit les trucs. Fait que. Bref, on reviendra là-dessus. Fait que c'était comme plus terre à terre, plus un peu Jump the Shark avec glace. Mais c'est vrai que c'est dans le même univers, il y a du bon. Fait que c'est dans les potables. Quel autre tu mets là-dedans?
Moi, je mettrais Old.
Ouais, je suis d'accord.
Je me rappelle plus du nom en français. C'était-tu...
Anormal.
Anormal, c'est ça.
Et dans les récents, là, 2021, ouais. Genre une espèce de body horror, suspense surnaturel, où des gens dans une... un gros hôtel très chic. Là,
Un tout inclus,
exact. Là, amenés se font inviter à dire hey, vous devriez aller à telle plage privée, vous allez être tranquille, on vous organise un petit bus, on vous amène là. Puis finalement, par une espèce de champ électromagnétique, ils sont comme coincés là, ils vont réaliser qu'ils vieillissent d'un an à toutes les demi-heures pour que, ben, spoiler, tout ça, ça serve à Big Pharma. Dans le fond, c'est un endroit qui existe naturellement, puis il y a des gros pharmaceutiques, compagnies pharmaceutiques qui profitent de cet endroit-là pour tester des médicaments. Mm. Ça vient d'une bande dessinée, Sandcastles.
Ouais. Qui est, en fait, Château de Sable, qui est une BD franco-belge, mais qui est quand même assez différente.
Oui, je pense pas qu'il y a le twist Big Pharma dans cette affaire-là. Puis c'est comme un peu l'affaire de trop. Ouais. Parce que... au lieu que les gens se ramassent là par accident, ben le fait qu'ils sont propulsés là, c'est parce qu'il n'y a aucune médication que tu peux tester en te donnant une dose, puis après voir sur 50 ans comment ça évolue. Ben, c'est aucune. Il y en a quelques-unes, mais tu sais, quand ils traitent de l'épilepsie, puis ils traitent de la schizophrénie, puis des affaires, c'est des médicaments qu'il faut que tu prennes comme à tous les jours. Hein. Fait que ça marche pas de même.
Non, c'est ça.
Puis là, après ça, il y a la twist dans la twist, parce qu'il y a ceux qui se sauvent, puis ils se rendent compte. Fait que là, donc, tout le village, là, l'hôtel, puis tout est un peu dans le coup. Fait qu'ils sélectionnent des gens qui ont des maladies pour leur envoyer une offre alléchante d'aller passer tes vacances là. Mais ils sacrifient des enfants, ils sacrifient plein de monde. Là. T'as une fille qui a un cancer que tu veux tester, fait que son mari et ses deux enfants, bah, fuck off, là, ils vont tous mourir. Ça n'a aucun sens, c'est complètement immoral. Mais peut-être que c'était ça qu'ils voulaient, qu'on soit choqués de tout ça, mais... Puis il y a le côté où là, le caméo qu'il fait, c'est qu'il est comme en haut d'une dune, puis qu'il filme en haut de la falaise, puis il filme. Fait que c'est comme le caméraman du film est le caméraman là-dedans, puis là, des affaires de même.
Genre... Une référence méta.
C'est ça. Puis les dialogues aussi ont comme pas vraiment de sens. Mais il y avait de quoi de le fun à quand même écouter le film, puis comment il évolue, puis des affaires comme
ça. Jusqu'au trois quarts, moi, j'étais vraiment embarqué. J'avais aucune idée où ça s'en allait, puis ça m'excitait. Mais je trouve que le. Twist à la fin.
C'est ça, il était victime de son affaire. Puis pourtant, c'est lui qui dit « Ah, j'aime pas ça qu'on m'associe tout le temps à ça. » Ouais, ben, fais-le un peu moins. Là,
c'est ça, pour arriver à d'autres choses.
Est-ce que là, tu remontais d'un autre...
Non, moi, je suis toujours dans ma catégorie.
Est-ce que tu mettrais là-dedans The Village? Ou tu le mettais plus haut?
Je le mettais un petit peu plus haut.
Parfait. Est-ce que tu mettais là-dedans Knock at the Cabin?
Ouais.
Parfait. Tu vois, j'essaie de deviner.
Même genre de sentiment que Old, encore là, un film aux trois quarts, super intéressant.
Aussi inspiré d'un roman.
D'un roman, c'est ça. Mais encore là, que la fin n'est pas entièrement satisfaisante ou à la hauteur du concept de base ou de l'intrigue menée.
Ouais, puis ce qu'on avait parlé à l'époque, où on avait. Ouais, 2023, on a couvert ça avec le balado, mais c'est que la. La fin du roman était beaucoup plus nihiliste, là, genre, alors que là, dans le film, il est comme resté un petit peu positif. Là. Il me semble un des deux pères meurt, mais l'autre est correct. Puis finalement, il arrive-tu à éviter ou il affronte l'apocalypse? Ou finalement, il n'y en a pas d'apocalypse, je ne me souviens plus. Je pense qu'il arrive à éviter l'apocalypse.
Il me semble que oui, parce que le roman, ça arrive. C'est...
Ouais, c'est ça.
Et je pense qu'il réussit ça. Là.
Mon souvenir, gros spoiler... C'est que dans le roman, tu me contais que, parce que mon souvenir, c'est ce que tu m'as raconté, que la fille mourait, la fillette mourait, mais par une balle perdue. Fait que ça comptait pas parce qu'il l'avait pas vraiment sacrifié, il était morte accidentellement. Fait que les deux autres disaient, ben, fuck off, puis ils se tuaient pas. Fait que là, les deux hommes allaient affronter l'apocalypse, finalement. Genre, c'est ça. Ouais. Alors que là-dedans, il y a comme un des hommes se sacrifie, puis il faut que l'autre le tue, il peut pas se tuer lui-même, puis effectivement. Fait que finalement, ça aurait été quasiment le meilleur twist.
Je pense.
De garder le truc du livre que tout finit mal, que de changer ouais. ça en genre d'happy ending. On dirait que ça. Tu vas aller voir du monde se faire un peu torturer dans un chalet à dire si tu vrai, si tu pas vrai, ces illuminés-là qui arrivent, puis c'est vrai que ça va pas bien dans le monde, puis qu'il y a des feux de forêt, mais là, c'est à cause qu'il faut que je sacrifie ma fille ou moi, ou tu sais, blablabla.
Ou que finalement, que la twist, c'est qu'ils sont juste vraiment illuminés, puis il y a quelque chose, puis qu'il se passe rien, là, ça aurait été encore peut-être plus.
Ouais, c'est ça.
Qu'ils font le sacrifice, mais que finalement.
Ouais, mais rien, ça, tu l'aurais pas su, parce que si tu fais le sacrifice.
Ah oui, non
ça,
mais
donc ça arrive pas.
Mais que t'amènes une twist, que tu sais.
Ouais, c'est ça.
C'est juste des gens qui se sont échappés d'une asile. Là,
d'avoir, ouais, ouais,
là,
ouais.
Je sais pas ça. Trop, là. Peut-être que ça aurait été trop facile, mais. Mais bref, ouais.
Ben, je trouve ça bizarre quand aussi t'as un roman à succès, que c'est comme, faut adapter cette idée-là, c'est vraiment bon. Puis là, c'est comme, ben oui, c'est plus long, mais tu coupes quoi? Change la fin.
Oui, et c'est probablement ce qui a contribué à son succès aussi. Tu sais, fait que
ben
tu
oui,
changes
c'est
comme
ça.
L'élément.
C'est, je comprends, des fois, film, tu coupes ben des oui. personnages, tu coupes des scènes, hein, finalement, toute ouais. la partie où ils vont à l'épicerie, tu sais, comme t'enlèves ça, blablabla, mais si tu changes la fin, tu dénatures beaucoup, beaucoup le projet.
Tout à fait.
Puis bref, fait qu'il y a ça. Est-ce qu'on monte de.
Oui, moi, je mettrais catégorie bon film. Pas parfait, mais qui sont okay. quand même satisfaisants.
Le village.
Je
le
mettrais là-dedans, ouais.
Ouais. Ça, c'était encore dans les bons. Puis je me souviens très bien, là, c'est, je pense qu'il était sorti début août là, ou quelque chose comme ça, en 2004. Puis là, je l'attendais. Là. C'était comme. Il était encore très fort là, chez Amalan. Mm-hmm. Puis je me souviens, j'allais sur le site internet du film, télécharger des wallpapers, des fonds d'écran, puis je mettais ça, puis j'en ai téléchargé quelques-uns. Puis c'était comme le village très. Brumeux, là, la balançoire, les petites maisons. Puis là, j'ai changé à toutes les deux semaines. Genre, mes parents, c'est quoi cette affaire-là? C'est un film, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Puis moi, j'avais aimé ça. Ça en est un. Je devrais plus réécouter lui que Lady in the Water. Qu'il y a probablement des petites imperfections. Je sais que la twist a choqué des gens. Des comme, voyons, c'est ça, fou le niaiseux. Finalement, il n'y en a pas de monstre, blablabla. Mais moi, je trouvais ça quand même intelligent, ouais. cette idée-là. Puis, c'est drôle parce que j'avais, à ce moment-là, je suis allé 2004, 18 ans, puis je parlais de tout ça avec un ami. Avant que le film sorte, on était très sur genre, « Hey, ça serait cool. » Tu sais, l'utopie. On avait découvert le terme puis l'expression de l'utopie, ces affaires-là. On était comme, « Hey, il faudrait fonder une île. » Puis là, on essayait comme d'écrire un roman ou quelque chose qui n'a jamais abouti. Ça n'a jamais dépassé le brainstorm, mais... Puis là, quand cette affaire-là est sortie, ça m'a vraiment percuté de genre, hey, c'est à peu près exactement ça que je voulais, tu sais. Que je rêvais, tu sais, qu'on discutait en tant que jeune ado qui arrive au cégep puis qui a des premiers cours de philo, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, bref, c'est pour ça que le village m'avait beaucoup marqué puis c'était encore dans ses gros succès, mais c'était dans ses premiers à coûter très cher. Non, excuse, j'ai mêlé. Non, 60 millions, c'était très raisonnable. Mm. Mais il y avait des gros noms, vraiment beaucoup.
Oui, quand même.
C'est ça, le Bryce Dallas Howard dans ses débuts, mais tu sais, Joaquin Phoenix, Adrian Brody, Sigourney Weaver, William Hurt, Brendan Gleeson, c'était toutes des faces connues. Là, c'est
ouais. Donc, deuxième film avec Bryce Dallas Howard qui s'annonçait comme sa muse.
Ben là, c'était le premier.
Après, oui, le premier, c'est ça. Ouais. Mais ouais. Suite à la débâcle de Lady in the Water.
Ben il a fait ça deux même... fois, d'être comme Bruce Willis back-à-back. Ouais. Puis elle, back à
puis Joaquin Phoenix.
Oui, c'est ça, Joaquin Phoenix. Avant aussi, dans Signs, puis Village. Oui, c'est ouais, ça, exact.
Quand il aimait un acteur, il voulait le réutiliser. Fait que, ouais, moi aussi, The Village, peut-être que la fin était pas entièrement satisfaisante, mais elle faisait du sens dans son ensemble.
Ouais,
fait que là, c'est juste une question d'appréciation, je pense, personnelle. Est-ce que ça plaît ou non? Mais je trouvais que l'idée, effectivement, c'était bien amené, c'était intéressant. Fait que, ouais, moi je mettrai dans ces catégories-là de films intéressants à voir. Là. Tu sais, c'était. Ouais.
Parfait. Est-ce que tu mettrais De Visite
oui.
dans ceux-là?
Oui,
tout à fait. Parfait.
Ouais.
Fait que ça, c'est beau, c'est sa relance. Alors, après tout le fiasco de Lasserbender, After Earth. Tu sais, puis probablement qu'After Earth était déjà en production. Fait que quand Lasserbender s'est planté, le monde avait dit « Mais au moins, nous, notre film, il va être meilleur! » Puis là, ça a donné un autre fiasco. Fait que là, après, ben puis personne ne voulait le financer, rien.
Ouais.
Fait que comme on expliquait, c'est là qu'il est reparti en se finançant pour après 5 millions en found footage. Deux jeunes que leur mère les envoie voir les grands-parents, mais ils ont jamais vu les grands-parents avant. Je ne sais pourquoi ils étaient en froid avec ou je ne sais pas quoi. Fait qu'ils ont comme jamais vu, ils sont loin. Fait que, regarde, je vais mettre l'autobus, passer. Très audacieux quand même. Allez passer une semaine chez vos grands-parents, puis je vous reprends plus tard. Puis les grands-parents, ben, ils sont juste très weird. Ils se réveillent la nuit, ils sont mieux de barrer les portes. Fait que c'est comme une grande sœur de quoi, genre 14, puis un frère de 10 ans, mettons, à peu près. Là.
Ouais.
Puis là, tout est bizarre avec la grand-mère qui rampe en dessous de l'escalier, etc. Jusqu'à un fameux punch cabanet. Tu te dis, ouais, mais c'est ça. Puis c'est ça. Fait que je sais pas si on peut spoiler. J'ai juste spoilé des affaires.
Ben, je pense.
Votre grand souvenir. Ben, c'est pas eux. Non, c'est pas ses grands-parents.
On en dit peut-être pas plus, mais c'est pas les grands-parents.
Non, c'est ça.
Dans le fond, une revisitation aussi de Hansel et Gretel, un peu le...
C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là.
Le truc, ouais.
Fait que, ouais, ça, je me souviens que j'ai... Moi, je l'avais... Quand je l'ai vu, c'était pas mal plus tard, puis je le savais. Même que tout le monde avait dit comme, ah, OK, non, c'était vraiment cool, il est revenu. Fait que j'avais quand même apprécié, là, sans avoir trop d'attente. Je disais, OK, oui, oui, c'est
non, pareil bien. Pour moi, je m'étais fié un peu aux critiques, aux commentaires, puis finalement, ça avait été une belle surprise. Il y a quand même des images un peu creepy dedans,
là, ouais,
qui restent assez marquantes. Fait que vraiment, film très, très simple, mais vraiment efficace. Avec quand même de bons petits twists dans l'histoire.
Un très beau succès. Budget 5 millions, recette mondiale de presque 100 millions. Fait que beau retour sur l'investissement. T'en as-tu d'autres?
J'en ai un autre que j'ai mis dans cette catégorie-là.
Vas-y.
Jouer avec Split.
OK.
Mais tu sais, comme à la limite aussi.
Moi, j'accepte. C'est juste qu'on s'en était parlé. Puis je pense que toi,
je pense que j'ai peut-être un peu plus aimé ça que toi.
Ouais.
Mais. Ben oui, fait que écoute, c'était. C'était le comédien, j'ai oublié.
James McAvoy.
Ouais, James McAvoy qui est juste subliminal là-dedans, là. C'est transformation
physique juste par le jeu. Ouais, il y a personnalités,
c'est ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Sont vraiment incroyables à voir.
J'avais lu une petite entrevue, c'est ça, McAvoy, quand Shyamalan dit, j'ai un projet pour toi, puis tu dis ça, puis tu dis, OK, c'est quoi le nom du personnage? Il s'appelle. Non, lis le scénario. Non, mais juste le personnage, il est quoi dans le. Non, lis le scénario. Tu sais, je peux pas t'expliquer, lis le scénario. C'est comme, OK, puis là, je disais 10 pages, OK, puis là, d'autres pages, puis là, une autre personne, je comprenais rien jusqu'à temps que tu comprennes tout, puis tu dis, OK, c'est ça qui se passe, là, tu sais.
Non, le scénario. Était vraiment bien développé. On retrouve aussi une jeune Anya Taylor-Joy.
Ouais.
C'était son film qui suivait The Witch, là, moi.
Probablement. Ouais.
En tout cas, sinon, genre troisième film. Puis, écoute, oui, là, je pense que c'est ce qui a contribué, je pense, à mon appréciation, c'est la fameuse twist où on apprend que le film fait partie de l'univers d'Unbreakable. Lorsqu'on voit Bruce Willis et son personnage de David Dunn apparaître, ça va être comme, OK, là, ça donne toute une autre dimension au film. Ça. Que j'ai trouvé vraiment intéressante. Là,
The Beast, là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, sinon, c'est ça. C'est comme un film de performance d'acteur. Là, ça repose sur McAvoy. Puis comme c'était son second tout de suite après The Visit, budget de 9 millions, là, fait que lui aussi, c'était encore lui qui s'autofinançait. Fait que c'est pour ça que c'est des jeunes filles séquestrées. Lui qui va chez la psychiatre, il n'y a pas de grand décor incroyable. Il n'avait pas besoin de toute façon. Là.
C'est quasiment un huis clos, là. À part quelques exceptions près où on sort, mais la majorité du temps, ça se passe dans
une espèce d'hangar, des égouts, je sais pas trop. Là. Puis, résultat mondial de 278 millions, là, il y a les poches pleines.
Ouais, c'était bien refait.
Je sais pas s'il avait fait un deal de pourcentage, justement, avec McAvoy quand il était dans Blumhouse, c'était ce genre d'affaires-là. Fait que peut-être qu'il. Fait que, ça, c'est quand même bien. J'ai un peu de réserve parce que. Autant c'est un film de grosse performance, je comprends pourquoi quelqu'un capoterait, adorerait ce film-là, mais moi, des fois, je trouve ça un petit peu lourdeau, là. C'est juste appréciation. Yep. Goût personnel là, de quelqu'un qui joue plein de monde, on dirait que ça devient artificiel, tout ça, là. Mais il faudrait que je le revoie, sinon, mais vais-je le revoir, vais-je avoir le temps, je sais pas, mais j'accepte que c'est quand même dans ce bon film.
Ah, moi, ça va être une très, très belle surprise, encore là, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, comme de visite, j'avais complètement embarqué dans son histoire.
Donc, il en reste trois.
Parfait. C'est très bon. Moi, j'y mettrais en troisième place, si on fait le décompte. Moi, j'irais avec Signs.
Oui, parfait. Ouais. Fait que finalement, c'est quasiment anti chronologique tout ça, là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je sais qu'il y en a qui, c'est comme tous les films de monstres, quand tu vois le monstre, soit t'adhères, soit il y en a qui débarquent. Fait que c'est un film d'extraterrestre. On voit des trucs de plus en plus bizarres arriver. Ça, c'est une bonne balance. Il y a des enfants, mais c'est quand même les deux adultes, Mel Gibson puis Joaquin Phoenix, les deux leads. Fait que ça passe mieux. Tout repose pas sur juste ouais. le point de vue des enfants puis les enfants tout le temps. Puis, tu sais, la fameuse scène où ils se mettent du papier d'aluminium sur la tête, Joaquin Phoenix et Mel Gibson s'enferment dans la petite garde-robe pour écouter la télé puis les nouvelles. Il se met à avoir des trucs, c'est ça, dans le champ, là, les fameux les signes, justement. De plus en plus de signes qu'il y aurait des extraterrestres. Fait que, c'est ça. Quand on les voit, il y en a qui n'aimaient pas trop le visuel, mais je suis comme, non, c'est pas correct, c'est son idée à lui. C'est
ta petite dose aussi, tu sais, quand même. Puis moi, c'est ce que j'ai apprécié, parce que trois quarts du film, un peu plus, tout est suggéré. On se demande même, est-ce que c'est vrai ou non? Puis finalement, quand il y a la fameuse... invasion, ben on est carrément juste dans le sous-sol, ben, puis on fait juste entendre. Et,
oui, il y a ça, puis il y a le moment où il va chez un voisin qui est joué par Shyamalan, puis il dit « Ah, je l'ai enfermé un dans le garde-robe », puis il dit « Nous autres, on s'en va proche de l'eau, il paraît qu'il en a moins. » Puis tout, puis... Fait que, tu sais, ce punch-là de... Ah, ça, je comprends, c'est que si la seule faiblesse des extraterrestres, c'est l'eau, ben elle vient pas sur la Terre, parce que la Terre est comme... Quoi, 60% d'eau, là, une affaire de même. Là. Fait que, ben, va pas là, là. Comme si on allait sur une terre qui était à 60% de lave, ça serait rough, là, ouais, quand même.
Peut-être qu'ils sont juste pas rendus compte.
C'est ça, ils sont arrivés sur le mauvais angle. Là. Toute l'eau était dans l'angle mort. Puis, Mais moi, je trouve que ça fait le fun dans le cadre du film et tout. Là. J'ai pas de problème avec ça. C'est un peu comme... War of the Worlds, là, la guerre des mondes aussi, que finalement, c'était juste « Ah, ben les bactéries les ont niquées », puis tout ça pour ça. Là. Fait que, ouais, on spoil tous les films qui existent, puis qui ont 20 ans. Fait que, je sais pas si tu avais d'autres fun facts sur ce film. Hey, j'ai oublié de dire tantôt, il y a un fun fact qui était drôle avec The Visit, parce que j'ai lu plein d'affaires sur les Razzies, les fameux Golden Raspberry Awards. Shyamalan avait été en nomination pour le Redeemer Award.
Ah, OK.
Fait que ça, c'est un prix que c'est comme après avoir fait des fiascos, parce que c'était suite à After Earth, mais c'est pas lui qui a gagné. Les autres nominations, il y avait Will Smith lui-même, parce que entre After Earth, puis là, il était allé faire Concussion cette année-là. Il y avait Elizabeth Banks entre Movie 43 et Pitch Perfect 2. Mais le gagnant est le Sly lui-même, Sylvester Stallone, pour le All-Time Razzies Champ pour toute la dompe qu'il a faite.
Pour Kaplan.
Et non, Creed. Non? Oh, en 2016, Creed. Okay, c'était Creed. C'est ça.
Kaplan, que... c'est ouais, les années 80, fin 90. Ouais.
Fait que, ouais, oui, c'est quand même le fun de suivre des artistes qui retombent sur leurs pattes.
Je pense que c'était mérité pour Sly, qui était effectivement très bon dans Creed. Fait que moi, je mettrais deuxième place. On va voir si tu le mets à la même place que moi. Moi, j'irai avec Sixth Sense, le sixième sens.
Écoute, j'ai pas revu... j'ai vu Unbreakable, mais peut-être genre dans le confinement, là, quand tout le monde aurait écouté tous des vieux films. Pis tout, je pense que c'est là que je l'ai revu. Et je suis d'accord.
Okay.
Avant de réécouter le sixième sens, j'ai dit, ben non, c'est le sixième sens, le numéro un, c'est sûr. Mais le sixième sens, ouais, c'est ça, là, tu mets le sixième sens. On parle du sixième sens, parfait. En deuxième place, j'ai un peu de problème avec les dialogues. Je trouve que c'est un film qui est basé pour le punch. Très bon punch. Si tu portes pas attention, l'histoire est assez entraînante pour que tu cherches pas à essayer de découvrir un punch. À cette heure que quelqu'un aurait jamais vu ce film-là puis il sait que Shyamalan fait plein de twists puis tout, ça se peut que tu la devines. Puis une fois que tu l'as deviné, il y a quand même beaucoup d'affaires qui font pas tout à fait de sens puis des phrases que tu dis pas dans la vraie vie puis qui servent juste à t'enligner à gauche puis à droite, tu sais. Puis, ou sinon, c'est qu'il manque un peu d'une petite explication de... on va le dire, là, ça fait 25 ans, là, mais Willis, qui est comme finalement qui est mort et qui est un fantôme, ben genre, il faudrait qu'il soit pas conscient qu'il est un fantôme, c'est-à-dire que parce qu'il apparaît à des endroits, tu sais. Fait que c'est comme cette mythologie-là qui était juste pas tout à fait expliquée, ou c'est moi qui l'ai pas saisi, fait que des fois c'est un peu mêlant qu'il arrive, qui est déjà dans des lieux, tu sais. Amener le kid, il revient de la maison, puis la mère est là, puis elle l'attend, puis Bruce Willis est à côté, puis là plus tard, c'est juste que ça te permet de dire, hé! Bruce Willis, j'ai oublié le nom de son personnage, il est partout, mais c'est vrai, il touche à personne, il parle à personne, il parle juste au petit gars, tu sais.
Mais lui, il sait pas qu'il est un fantôme.
Non, il sait pas qu'il est un fantôme, mais ce qu'on comprend pas, c'est que c'est comme si la ligne temporelle fait que si t'es un fantôme, ce que je crois comprendre pour que le film fonctionne, des fois, tu disparais puis t'existes plus. Puis à un moment donné, tu reviens puis t'es à un endroit. T'es pas genre, tu vas pas te coucher, tu vas pas manger, tu vis pas une journée normale, t'es juste... t'apparais puis tu disparais sans avoir conscience que t'as disparu. C'est ça qui permet de marcher que Ah oui, je suis dans la maison parce que je l'attends pour une consultation, mais il arrive en retard, fait que sa mère le chicane, puis ils s'en vont souper, fait que je vais y aller. Mais t'ouvres pas la porte, t'interagis pas avec rien, fait qu'il faut que tu disparaisses. Sinon, pour le cinéma, ben c'est juste, je l'assois sa chaise, il parle à personne, puis le plan d'après, on n'y pense plus. Mais lui, là, pour en être pas conscient, il faut qu'il soit un peu omniscient, puis il est partout, puis il disparaît, puis il revient, puis sans avoir conscience qu'il est un fantôme, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est l'affaire qui est très importante pour que ça fonctionne, mais c'est jamais vraiment expliqué. Fait qu'il faut juste le raisonner comme ça. Peut-être qu'il fait partie des cinéastes, qui, tu sais, il a réponse à tout, mais après, qu'est-ce qu'on met dans le film, puis qu'est-ce qu'on laisse en dehors?
Moi, je trouve juste, contrairement à Unbreakable, c'est effectivement, une fois que tu connais le punch, ça se réécoute moins bien, je trouve.
Ben, ça m'a pris 25 ans, puis j'étais comme... Puis même en le réécoutant, tu sais, ça commence par... il est avec sa blonde, puis il a du fun, puis là, il arrive l'ancien patient, puis il se fait tirer dessus, puis tout après, c'est comme l'automne plus tard. Puis même moi, je savais, puis comme je dis, ma blonde ne le savait pas, puis était comme, « Hein, c'est bizarre, on skip à ça, on revient pas là-dessus. » Puis j'étais comme, « Moi, ça va sûrement resservir plus tard, tu sais, comme un... » une séquelle ou quelque chose, parce qu'à partir de là, c'est comme on pense que son couple va pas bien, mais tu sais, t'as pas de raison, si t'es parfaitement en amour, puis tu te fais tirer dessus, ta blonde va pas arrêter de t'aimer, là. C'est comme, il y a...
Non,
fait que même ça, c'est un peu gros, mais écoute, il a été nommé aux Oscars pour meilleure réalisation, puis meilleur scénario. Mais je pense que quand même, c'est quand même un très bon réalisateur. Je pense juste que faut pas que... C'est ça. Ce serait quasiment mieux d'avoir les scénarios d'autres mondes, tu sais.
Ou de travailler avec quelqu'un, des fois, en duo. Mais ceci dit, non, c'était quand même très, très audacieux. Ben, audacieux, en tout cas. Ça a été une belle surprise, honnêtement, parce que personne ne s'attendait à ce que ce film-là remporte autant d'argent.
Hey, 670 millions, ouais, c'est fou, là.
Tu sais, moi, je me souviens, je suivais le box-office
presque
à chaque semaine.
Presque 300 aux États-Unis, là.
Oui, oui, puis à chaque semaine, ça se maintenait. Des fois, ça faisait un petit peu plus, ce qui est rare, là, qu'on voit aujourd'hui, là. Fait que c'est un phénomène juste incroyable de bouche à oreille, justement. Je pense que les gens avaient un plaisir d'amener quelqu'un puis de lui faire découvrir le punch, tu sais, puis de voir comment les gens réagissent, c'est ça. Ça, c'est quand même toujours un petit plaisir aussi. Moi, j'ai quelques petits faits intéressants sur le film. Le scénario avait été acheté par Disney, donc je pense que c'était Touchstone à ce moment-là, la bannière. Et c'est le président de production de Disney, David Vogel, qui avait acheté le scénario pour 3 millions avec aussi la condition que Shyamalan réalise le film. Et ça n'avait pas passé auprès du board de Disney.
Ah ouais, OK.
Ouais, fait que Vogel avait perdu sa job à cause de ça. Disney avait vendu le scénario à Spyglass Entertainment, mais gardant une cote de distributeur, mais ne voulait pas le financer. Puis finalement, écoute, c'était un énorme succès.
Mais là, je peux pas voir qu'il a perdu sa job juste à cause de ça. OK, parce qu'il a signé...
Sans leur accord.
Ah, OK.
Ouais. Fait que les autres, ils ont comme pas... Non, on n'autorise pas ça. Tu aurais dû nous demander, autre que je ne sais pas trop les tractations. Fait que, ouais, quand même.
Aïe, aïe.
Je sais pas s'il s'est replacé ailleurs, mais en tout cas, ça doit être déchirant dire finalement, j'avais raison.
Non, parce que ça me rappelle aussi écoute, je sais pas qui a réalisé ça, mais il y avait un... Début 2000, là, il y a eu un film avec Robert De Niro, là, qui était comme un psychologue ou un psychiatre, puis il y avait une petite fille, puis c'était toute sa fille à lui, puis elle faisait des dessins, puis finalement, c'est une espèce de twist comme ça, que genre tout est dans sa tête, ou que c'est pas arrivé, ou que c'est elle la tueuse, ou tu sais. Puis c'est des films qui ont l'air de rien, mais qui rapportent full d'argent, parce que le monde, c'est comme, hey, c'est un comédien que j'aime, il est vraiment bon là-dedans, Bruce Willis est vraiment bon, puis il y a un punch, là, tu vas tomber sur le cul, tu vas tomber en bas de ta chaise, faut que t'ailles voir ça, mon chum. Fait que le monde, puis encore plus, tu sais, 2000, tout le monde allait au cinéma, là. Ouais. Aujourd'hui, ça finit en plateforme, on va attendre deux semaines, puis je vais l'avoir, là, tu sais.
Puis c'était la grosse période de Bruce Willis aussi, quand même, c'est ça. Il venait d'enchaîner.
Fait que je trouve ça nul que pour genre 3 millions pour un film qui coûtait 40 millions, tu sais, oui, c'est un certain investissement, là, c'est 3 millions en 25 ans, là, c'était peut-être comme 10 millions aujourd'hui, mais c'est genre... Ben, 10 millions aujourd'hui, si Disney achetait les droits d'un film pour ça, ça ferait pas la une, là.
Hey, t'as donné ce montant-là au gars qui a fait Wide Awake.
Peut-être ça. Ouais, c'est ça.
Qui a fait genre 50 millions.
Puis il y en a deux dans le bar qui disent « C'est quoi ça, Wide Awake? »
Ouais, c'est
là,
ça. Ouais.
C'est ça.
Puis pourquoi Bruce Willis a participé au film? C'est qu'il en devait une à Disney, en fait. C'est ça que j'ai vu. Il tournait un film qui s'appelait Broadway Brawler. Je pense que tu aurais aimé ça parce qu'il jouait un ancien joueur de hockey.
Ah ouais? Ouais. Hey, ça aurait été bon, ça.
Puis, écoute.
Pour celui-là, je ne sais même pas s'il s'est patiné. Ah,
puis le tournage a vraiment chié. Ça a l'air que Bruce Willis traîne une réputation qui est très difficile là, sur les plateaux de tournage. Fait qu'il avait renvoyé une partie de l'équipe. Il ne s'entendait pas avec le réalisateur, la productrice. Fait que finalement, Disney, à moitié du tournage, on dit OK, on arrête ça. Puis au lieu de juste. Pour rembaucher des gens puis de repartir le tournage. Ils ont dit, ben OK, en échange de ça, tu nous dois 3 films.
OK.
Puis.
Ah, c'est pas qu'il y a eu The Kid, puis des affaires comme ça, ouais.
Enfin, il y a eu Armageddon, qui était son premier.
Ah, c'était avec Disney, ça?
Ouais, avec Disney. Puis The Sixth Sense et The Kid, qui était le troisième film.
Ah, c'est ça. Puis The Kid était très, beaucoup plus familial, là.
Ouais. Fait que, voilà. C'est ça, ça arrive des fois, j'en entends des trucs de même, là, des comédiens qui. Val Kilmer, c'était ça avec Top Gun.
Ah,
il
ouais?
était sous contrat avec Paramount, il leur devait un film, puis il dit tu vas jouer là-dedans. Puis, écoute,
ouais, je l'avais entendu d'autres comme ça. Ouais. Je pense qu'ils doivent essayer d'éviter ça maintenant, mais à l'époque c'était ça. Mm. On te prend pour 5 films. Puis là, amener, mais t'as une date limite. Fait qu'à à la fin, c'est comme ben là, cette année, il faut que tu fasses 2 films. Alors, ben donne-moi une pile de scénario à son agent, prendre lui, puis lui, puis ça va être ça. Fait que t'es comme un gros nom dans un film boboche avec des réals pas trop connus, puis c'est comme ouais, ben. Il était obligé contractuellement, mais il est quand même payé 18 millions, lui, pour faire un film que le budget, c'est 22. Donc, il y en a 4 millions sur le film puis 18 dans ses poches. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que,
oui, en tête de liste, ben, sans grande surprise, c'est Unbreakable.
Comme c'était comment au Québec, pas incassable. C'est pas, non, pas incassable, mais ça ressemble à ça. En tout cas, criez-le dans votre auto. Le fameux suspense, c'est ça, l'agent de sécurité qui finalement réalise qu'il est jamais malade, qu'il est fort, qu'il peut soulever des barres d'haltère plus des canisses de peinture. Fait que il va toucher les gens à découvrir, puis à un moment donné, se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a séquestré, puis mais sa seule faiblesse, c'est l'eau. Mm. Fait que là, il dit, ben là, je suis pas invincible. Mais non, Superman, c'est la kryptonite et tout. Et tout ça vient de ce monsieur qui a des problèmes, Samuel L. Jackson, monsieur Vert, qui est toujours en train de briser. Qui orchestre des accidents pour essayer de trouver des gens plus forts et qui survivent à ça. Ben oui, c'est qu'il survit à un accident de train, quand même. Oui, j'avais oublié cette partie-là. Ça, c'est quand même plus notable que juste pas être malade, jamais avoir une journée de maladie. Parce que j'ai pas eu de journée de maladie, ben, j'en ai jamais.
Ouais.
Mais je pense pas que je survivrai à un accident de train, cela dit. C'est juste que je vais travailler même si je fais un peu de fièvre. C'est peut-être juste ça l'affaire, finalement.
Fait que Unbreakable, écoute, un film avant-gardiste avec cette thématique-là de super-héros. On commençait, écoute, même X-Men n'était pas sorti, je pense que c'est 2000. C'était-tu 2000, c'est la même année qu'X-Men de Fox, je pense.
Probablement, oui.
Mais donc, il revisite, c'est ça, la thématique de super-héros, mais dans un angle hyper réaliste, très concret, qui faisait très roman graphique. Là, ça peut être très bien écrit par Frank Miller ou Alan Moore à cette époque-là. Fait que, évidemment, moi, étant fan de ce créneau-là, de genre-là, c'est sûr que j'avais trippé, sachant qu'on se dirigeait vers ça, finalement, avec l'histoire. Encore un très bon punch aussi avec le personnage de Samuel Jackson, là, qui, un peu au début, il joue un peu comme... pas mentor, mais qui le guide un peu. Là,
ouais,
une espèce
ça.
D'aide.
Le spécialiste des comic books.
Spécialiste, c'est ça. Puis finalement, on réalise que ben non, c'est lui le Joker au personnage de David Dunn, finalement, là,
ouais,
son archi-ennemi. Pourtant, il y avait ce voyons, cette... juste clou en tête. Là, mais comment ça?
Indice.
Cet indice-là, avec le nom du personnage David Dunn, parce que dans les BD de Marvel.
Ben oui.
Tous les personnages ont
le même lettre de
même
prénom
lettre
de, et de famille,
ça.
Bruce Banner.
Que,
c'est, ça, ouais.
C'est quand même drôle. Fait que moi, Unbreakable, c'est un film que j'ai pas vu tant que ça, honnêtement. Tu sais, je vois peut-être une fois par 10 ans, honnêtement. Je l'avais réécouté probablement après Split quand j'avais vu ça, puis une fois avec Glass, mais à chaque fois j'ai un plaisir à le réécouter. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien joué aussi.
Ben c'est un bon. Comment ils appellent ça, mais les films de super-héros qui découvrent ses pouvoirs. Là.
Ouais, un récit initiatique, peut-être.
Ben, un peu, là, mais en tout cas.
Origin Story, c'est ça.
Voilà, tu sais, de comme. Tranquillement, il découvre, là, quand il est agent de sécurité, puis là, il voit quelqu'un qui fait des affaires louches. Il me semble qu'il est joué par Shyamalan, justement. Qui a un paquet louche, puis des affaires de même. Puis, qui, en y repensant, ça doit se passer à Philadelphie, ça doit être genre une game de football des Eagles ou une affaire de même, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, très cool film. Mais c'est plus. Je pense que c'est un film qui est plus bro. Je sais pas si des filles aimeraient autant ce film-là. On dirait que c'est un film de gars, quand même, dans sa façon. Là. Puis je pense que lui-même l'a accusé un peu. Là, de dire... Ben, en fait, pas contre Unbreakable nécessairement, mais il disait au début de ma carrière, j'étais. Ben, il a eu ses enfants assez jeunes, mais tu sais, il y avait des jeunes enfants, puis plus ses enfants ont vieilli, plus il a voulu faire des films un peu plus familiaux, puis Airbender en est un bon exemple, mais tu sais, même The Visit ou des choses comme ça, que c'est comme, on intègre plus les enfants, tout ça, même Sang et tout, tandis que ses premiers, c'était, ben, même s'il y a un garçon aussi, là, son personnage, mais c'était plus, un film de... genre, je sais pas quel âge il y avait, là, 28, 30 ans, 25 ans, puis comme... ben oui, à peu près... ouais, il y a 55 ans, fait qu'il faudrait faire le calcul, il est en 70. Bon, fait qu'il avait 30 ans. Mm. Fait que c'était des films pour lui qui trouvait le fun, puis blablabla, là, surtout comme on sait. C'est pas parce que le film est sorti en 2000 qu'il l'a écrit en 2000, là. Tu l'as écrit ça 6-7 ans avant, je sais pas.
Non, non, en fait, il l'a écrit tout de suite après The Sixth Sense. Fait okay. C'est pour ça que Bruce Willis est dedans, parce qu'il a pitché son idée à Bruce Willis, qui a dit « Ah oui, je trouve ça super intéressant. » Fait qu'il a écrit son scénario.
Parce que les films ont un an de différence.
Ouais, fait qu'il a fait pendant qu'il montait...
Fait qu'ils ont tourné ça vite en tabarouette.
Oui, oui, vraiment, tout à fait. Puis déjà à l'époque, il a dit que c'était Samuel Jackson qui avait en tête, fait qu'il écrivait le personnage pour lui. Puis c'est Bruce Willis qui a servi d'intermédiaire pour ce qu'ils avaient joué ensemble dans Pulp Fiction, même s'ils ne se côtoyaient pas. Mais fait que bref, c'est Willis qui a donné le scénario à Samuel Jackson.
Crime, ouais.
Fait que ça s'est fait, ouais, en l'espace de... Écriture en quelques mois, tournage. En même temps, c'est un tournage qui devait être après 60 jours. Là, c'est pas énorme.
Il n'y a
pas tant d'effets non plus. Fait que...
Crime. Ouais, ça me donne envie de les réécouter. Mais tout ça pour dire que quand Trap va sortir, le, j'ai oublié de noter, 9 août, je pense.
Ouais.
J'ai quand même bien hâte. Je suis très con... J'aime beaucoup Josh Hartnett.
Ouais.
Autre fun fact, The Watchers, la semaine prochaine... première réalisation de sa fille Ishana Knight-Shyamalan. Mais une autre de ses filles, je sais qu'il y a 3 enfants, l'autre, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, elle n'est juste pas dans le milieu des arts. L'autre de ses filles est
musicienne.
Chanteuse. Oui, okay. Chanteuse musicienne et comme pop star, mais d'espèce de la scène hindou-américaine, hindou-anglo, là, genre un peu. Puis elle a sorti un premier album il y a genre un an. Là. Ils sont assez jeunes quand même, ces filles, là, dans vingtaine. Là. Puis elle joue dans Trap. La fameuse artiste.
OK.
Mais c'est pas elle, est un personnage, mais c'est sa fille qui joue le Lady quelque chose. Là.
L'espèce de Beyoncé.
Lady Raven, ouais, c'est ça. Okay. C'est Saleka Shyamalan, qui est connue comme artiste, juste comme le nom de Saleka. Fait que c'est vraiment la famille au grand écran.
Cet
été, ne manquez pas les Shyamalan tous les mois.
Moi aussi, j'ai bien hâte à Trap. Je trouve que, encore là, le concept. A de l'air le fun, c'est quelque chose d'original, ça, il faut lui donner souvent. Il nous présente toujours quelque chose qu'on
c'est a sûr que ça se passe à Philadelphie, j'ai pas regardé, mais ça va ça sûrement doit, être ça.
Effectivement. fait que j'ai bien hâte, ouais.
Fait que voilà, et ben la semaine prochaine, on est de retour avec un épisode plus traditionnel où on va vous parler entre autres ben, de Watchers, les guetteurs de Ishana Shyamalan, mais aussi de Bad Boys Ride or Die. Est-ce qu'on va avoir droit à du bon Will Smith ou du Will Smith de After Earth?
Puis moi, je dois avouer que j'ai débuté mon marathon Bad Boys pour être au jour pour la sortie du nouveau.
Je les avais écoutés en début d'année. Là, je ne me souviens plus si c'était dans mon congé de paternité ou dans le temps des fêtes, là, mais je les avais tapés les 3 en prévision de.
Et que moi, je n'ai jamais écouté, donc je découvre.
Ah, ben moi aussi, c'était ça. Le 2, il a joué beaucoup à télé, là, TVA, TQS, quand j'étais jeune. J'avais vu des bribes, mais jamais au complet. Là, je suis fin prêt. Puis c'est les mêmes co-réals là, du dernier volet, du 3, qui reviennent pour le 4e. Fait que je pense qu'on va être dans le même genre de petite folie. Et de blagues et de petites vannes entre amis. Alors, bref, ça conclut ce balado. Écrivez-nous, comme d'habitude, balado à commercial monciné.ca. Puis dites-nous donc si on a eu tort pour After Hurt ou autre. Et procurez-vous gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Si jamais un jeune dans votre entourage qui dit qu'il voit des morts, posez-vous des questions.
Croyez-le.